VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 4 mai 2023. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington. Idrissa Seloudia. Tout d'abord, les titres. 20e jour de guerre au Soudan, une nouvelle trêve vole en éclats. Au Burkina Faso, le ministre de la Défense dénonce une coalition internationale contre son pays suite à son rapprochement avec la Russie. Les Maliens confiants à une immense majorité dans la Russie et la junte au pouvoir, selon une enquête d'une fondation allemande. Au Sénégal, un journaliste inculpé pour diffusion de fausses nouvelles. La Russie dit avoir déjoué une attaque de drones ukrainiens contre le Kremlin. Un mort et quatre blessés dans une nouvelle fusillade aux États-Unis. Le suspect appréhendé. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Explosion et tir résonnent ce jeudi à Khartoum au 20e jour de combat acharné entre l'armée et les paramilitaires qui se disputent le pouvoir au Soudan et risquant d'entraîner la région dans une crise. Malgré l'accord, l'annonce d'un accord de principe pour prolonger jusqu'au 11 mai, une trêve jamais respectée, des affrontements et des explosions secouent la banlieue nord de Khartoum, rapporte à l'aube des habitants à l'AFP. Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des FSR, forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, a fait 150 morts et 5000 blessés selon un bilan largement sous-estimé. Les hôpitaux ne peuvent suivre, moins d'un sur cinq est encore en fonctionnement à Khartoum et quasiment aucun au Darfour. Les combats ont déplacé plus de 335 000 personnes et poussé 115 000 autres à l'exil selon l'ONU qui s'attend à 8 fois plus de réfugiés. Comme les plus de 5 millions d'habitants de la capitale, ils ne peuvent plus vivre, ces habitants, qu'au rythme des bombardements terrés. Pour éviter les balles perdues dans des maisons sans eau ni électricité, avec de moins en moins d'argent et de nourriture, le tout sous une chaleur écrasante. Au Rwanda, au moins 130 personnes ont été tuées dans des inondations et glissements de terrain causés par de fortes pluies qui ont également détruit de nombreuses maisons et coupé des routes. Le point avec Rosine Munezero.
Dans les districts les plus touchés dans l'ouest, le nord et le sud, des opérations sont en cours pour permettre l'évacuation et la relocalisation temporaire des résidents des zones touchées et à haut risque pendant que les pluies se poursuivent, a indiqué la présidence. À Rubavu, les habitants ont été pris par surprise. La rivière Sebaya, qui se jette dans le lac Kivu quelques kilomètres plus loin, est notamment sortie de son lit. En visite dans la ville, le porte-parole adjoint du gouvernement a déclaré que les autorités organisaient l'accueil des habitants dans des tentes et des bâtiments publics, notamment les écoles. L'Afrique de l'Est connaît souvent des épisodes d'inondation durant les saisons des pluies. Fin 2019, deux mois de pluie incessante avaient entraîné des inondations et des coulées d'eau boue qui ont tué au moins 265 personnes et fait des centaines de milliers de déplacés dans la région au Burundi, Kenya, Tanzanie, Ouganda et au Soudan du Sud.
Au Burkina Faso, le ministre de la Défense, le colonel Kassoum Koulibaly, a dénoncé hier les agissements de ce qu'il a appelé une coalition internationale contre le Burkina Faso en proie à la violence djihadiste et à des violations de son espace aérien. Rencontrant à Ouagadougou des syndicats et organisations de la société civile, le colonel Koulibaly a estimé que cette coalition internationale, dont il n'a pas cité les membres, et les violations de l'espace aérien burkinabé étaient liées au rapprochement opéré par son pays avec la Russie depuis le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré le 30 septembre dernier. Comme l'avait déjà fait le capitaine Traoré, il a nié la présence de mercenaires du groupe Wagner au Burkina Faso, présent dans d'autres pays africains. « Il n'y a pas de Wagner ici », a-t-il dit. Au Mali voisin, plus de 9 Maliens sur 10 ont confiance en la Russie pour aider leur pays face à l'insécurité et au djihadisme, indique une enquête d'opinion réalisée par la fondation allemande Friedrich Ebert Stiftung et publiée mercredi. Les Maliens sont par ailleurs satisfaits dans les mêmes proportions du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, qui a pris le pouvoir par la force en août 2020, montre cette enquête. La junte a rompu une alliance de longue date avec la France et s'est tournée militairement et politiquement vers la Russie à partir de 2021. L'armée malienne a reçu plusieurs livraisons d'équipements militaires russes, ainsi que le renfort de centaines d'hommes, des instructeurs de l'armée russe selon elle, des mercenaires de la société privée Wagner au jasissement décrié selon la France et ses partenaires occidentaux. Un journaliste sénégalais a été inculpé pour diffusion de fausses nouvelles et placé sous contrôle judiciaire hier mercredi, où le Sénégal a perdu 31 places dans le classement annuel de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières, a indiqué l'un de ses avocats à l'AFP. Babacar Touré, patron du site d'information Kéoulo, était en garde à vue depuis le 26 avril à Dakar, après une plainte d'un agent de sécurité qui l'accuse de s'être attaqué à lui dans une vidéo et de mettre en danger sa sécurité, selon Maître Moussa Sarr. Le divorce de la fille du défunt dirigeant du Zimbabwe, Robert Mugabe, a levé le voile sur la fortune colossale amassée par la famille de l'ex-président. Les documents judiciaires font état de propriété d'une valeur de près de 80 millions de dollars. Précision de John Linden.
Bona Mugabe, 33 ans, a demandé le divorce au début de l'année à son mari depuis 9 ans, Zimbarashe Muchawini, un ancien pilote de ligne. Dans les documents judiciaires, Zimbarashe, qui se fait aussi appeler Chicoré, énumère de nombreux biens appartenant uniquement à Monsieur Mugabe ou conjointement au couple. Il s'oppose au divorce, mais demande s'il est prononcé la garde partagée des 3 enfants du couple et d'une partie des biens acquis en commun. La variété et la valeur des biens énumérés dans la demande sont susceptibles de bouleverser de nombreux Zimbabwéens, alors que le pays est confronté à une pauvreté endémique, à des coupures d'électricité chroniques et à une inflation extrême. La liste comprend 21 fermes et plus de 25 propriétés dans les banlieues huppées de Harare, dont une évaluée à 40 millions de dollars, et un manoir à Dubaï d'une valeur de 8 millions de dollars. Monsieur Chicoré cite aussi de nombreuses voitures, dont une Rolls-Royce de 800 000 dollars et 3 Range Rover.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les républicains ont mis en garde mercredi contre un chaos et un cauchemar à la frontière avec le Mexique la semaine prochaine. Ils redoutent la levée le 11 mai d'une mesure anti-Covid-19 utilisée pour bloquer la plupart des migrants. Mohamed Oumfa.
Le 11 mai sera un cauchemar pour le peuple américain, en particulier pour les habitants du Nouveau-Mexique et du Texas, a déclaré le sénateur républicain Lindsey Graham. Ce qui va se passer, c'est que l'administration Biden va abroger l'utilisation de l'autorité du titre 42 pour expulser les gens, a-t-il déclaré. Il a prédit que l'élimination de cette disposition, qui permet d'expulser les illégaux et demandeurs d'asile, qui sera remplacée par un mécanisme d'application différent, connu sous le nom de titre 8, va entraîner un doublement des tentatives des migrants sans papier d'entrer dans le pays depuis le Mexique. Selon lui, cela aura pour effet de submerger les autorités frontalières. Dans les 90 prochains jours, vous verrez entre 900 000 et 1,1 million de migrants traverser la frontière, a prédit M. Graham lors d'une conférence de presse. L'administration Biden a annoncé mardi qu'elle mobilisait 1500 soldats supplémentaires pour aider à surveiller le flux des migrants. Ils viendront s'ajouter à plus de 2500 déjà sur place en prévision d'une augmentation du nombre de passages après le 11 mai.
L'Ukraine a affirmé aujourd'hui avoir abattu au cours de la nuit 18 drones sur 24 envoyés par la Russie au lendemain des accusations de Moscou à l'encontre de Kiev d'avoir lancé une attaque de drones sur le Kremlin, ce que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a démenti en disant « Nous n'avons pas attaqué Poutine, nous nous défendons nos villages et nos villes ». D'autre part, deux drones ont frappé des raffineries de pétrole dans le sud-ouest de la Russie, près de l'Ukraine, ont indiqué des médias et autorités locales aujourd'hui. Et puis les États-Unis ont annoncé hier un nouvel envoi d'aide militaire de montant de 300 millions de dollars à l'Ukraine, principalement des munitions pour l'artillerie. Un homme a ouvert hier dans un hôpital, a ouvert le feu hier dans un hôpital d'Atlanta, faisant un mort et quatre blessés, toutes des femmes, avant de prendre la fuite et d'être arrêté au bout de quelques heures, selon la police de cette ville du sud des États-Unis. Le suspect a été identifié comme Dion Patterson, un ancien agent des gardes-côtes. Les coups de feu ont eu lieu dans une salle d'attente d'un centre hospitalier de la ville. La Minute Éco, Nanit Talani.
Une start-up camerounaise, Youth Adapt, a reçu une subvention de 100 000 dollars de la Banque africaine de développement pour aider les agriculteurs à produire des cultures toute l'année grâce à des serres fabriquées à moindre coût. L'initiative a réduit le coût de fabrication d'une serre à environ 500 dollars contre 2500 dollars. Youth Adapt cible des agricultrices rurales qui cultivent des légumes dont la demande augmente. Le groupe ARC et la BAD ont offert 1,5 million de dollars en paiement d'assurance au gouvernement de Madagascar et au Programme alimentaire mondial pour soutenir le rétablissement du pays après le cyclone tropical Freddy. Les fonds comprennent 1,2 million de dollars pour le gouvernement malgache et 300 000 dollars pour le PAM. Pour terminer, la Banque centrale américaine a relevé ce mercredi d'un quart de point son taux directeur pour la 10e fois d'affilée depuis mars 2022. Le taux directeur se situe désormais dans une fourchette de 5 à 5,25%. La banque veut ainsi juguler l'inflation malgré des signes d'essoufflement de l'économie et la récente crise bancaire.
Merci Nanit. Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Basketball Africa League, Seydou Legacy Athletic Club tombe une troisième fois dans la conférence Nil.
Oui, victorieux mardi, pour la première fois en trois matchs, les Guinéens se sont inclinés lors de leur quatrième sortie hier mercredi devant le redoutable Petro de Luanda 95-78. Les Angolais alignent ainsi quatre victoires en quatre matchs et sont qualifiés pour les playoffs prévus à la fin de ce mois à Kigali au Rwanda. Toujours hier mercredi, battu mardi par les Égyptiens dans la Ligue 91-75, les Mozambicains de Ferroviário da Beira se sont repris et ont battu les Sud-Africains de Cape Town Tigers 82-76. Cette victoire positionne bien les Mozambicains qui comptent désormais deux victoires en quatre matchs. Pas de rencontre aujourd'hui, les deux dernières journées de cette conférence Nil se disputent demain vendredi et samedi.
Football avec la CAN des moins de 17 ans en Algérie, la deuxième journée qui s'achève aujourd'hui.
Un seul match au programme dans le groupe C, le Mali fait face au Cameroun. Pour rappel, cette poule est composée de trois équipes car le Soudan du Sud a été renvoyé pour s'être fait prendre par le test IRM. Hier mercredi, dans le groupe B, le duel des leaders entre le Maroc et le Nigeria tourné à l'avantage des Marocains, vainqueur 1-0. Les Lionceaux de l'Atlas rejoignent ainsi les Sénégalais qualifiés pour le tour suivant. L'Afrique du Sud a réussi une belle opération en battant la Zambie 3-2.
Cyclisme avec la troisième étape du Tour du Bénin qui se court aujourd'hui.
Cet acte 3 se dispute entre Abomey et Koumé, 140,52 km. Hier mercredi, l'Algérien Hamza Yassine a remporté la deuxième étape, courue entre Parakou et Savet, distance 156,42 km. Il a devancé au sprint avec un chrono de 3h51 minutes 43 secondes, une vitesse moyenne de 40,50 km/h. Le Marocain Achraf Ed Dogmi, vainqueur de la première étape mardi, ce dernier conserve le maillot jaune.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Environ 130 personnes ont perdu la vie dans les provinces du nord et de l'ouest du Rwanda suite aux inondations consécutives aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région dans la nuit de mardi à mercredi. De Kigali, Jean Damascène Manishimwe fait le point.
C'était une nuit de cauchemar qu'ont vécu les populations des provinces de l'ouest du nord du Rwanda dans la nuit de mardi à mercredi. Et pendant pratiquement toute la nuit, une forte pluie s'est abattue sur cette région des hautes montagnes, provoquant des inondations et des glissements de terrain. Les parties les plus affectées sont les districts de Lubavu frontalier de la République démocratique du Congo, de Karongi, Rutsiro, Ngororo et de Nyabihu. La situation a été aggravée par une rivière, Sedeya, qui a débordé son lit, inondant les maisons des riverains, emportant leurs biens et bétail. Les habitants de la région racontent leur malheur.
Un glissement de terrain s'est abattu sur le mur de la maison, tuant trois fillettes qui dormaient. Deux garçons ont pu échapper et m'ont aidé à sauver une maman qui se trouve maintenant à l'hôpital.
Moi, j'ai été réveillée par les agents de sécurité à 1h du matin. J'ai ouvert la porte et soudainement, l'eau s'est déversée sur moi, mais j'étais à l'intérieur de la maison. Couverte d'eau, j'ai eu du mal à sortir. On a dû enlever les grillages et les vitres pour me faire sortir.
Qu'est-ce qui explique cette catastrophe et son précédent et qui compte faire les autorités rwandaises pour protéger la population? C'est ce que nous indique la ministre rwandaise des Urgences, Marie Solange Kayisire.
Suite à la physionomie du pays, lorsqu'il a de fortes pluies, le sol se fragilise davantage. Nous demandons à la population de faire beaucoup attention, ceux qui habitent près de hautes montagnes, d'évacuer les lieux pour se sauver. Puisqu'une vue perdue ne se récupère jamais. Toutes les instances nous sont mobilisées pour relocaliser toutes les populations se trouvant dans des zones à haut risque.
Le gouvernement s'est engagé à assister les sinistrés et à soigner gratuitement ceux qui sont affectés par ces catastrophes. Alain Mukuralinda est porte-parole adjoint du gouvernement rwandais.
Nous invitons à inhumer ceux qui sont morts et le gouvernement va les assister. Les blessés vont être soignés près de chez eux et gratuitement.
Selon les autorités locales, le bilan actuel d'environ 130 morts pourrait s'alourdir car elles continuent d'évaluer les dégâts de ces intempéries. Les prévisions météo indiquent qu'il faut s'attendre encore à d'autres fortes pluies dans les 10 prochains jours. Jean Damascène Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'avenir des travailleurs dans une économie mondiale en perpétuelle mutation. La fête internationale du travail a été célébrée cette année dans un contexte post-Covid qui a suivi 3 années de pandémie et ont durement affecté le monde de l'emploi. L'OIT appelle à une mobilisation pour remodeler les politiques économiques, sociales et environnementales pour un avenir plus stable et plus équitable. Quel avenir pour le marché du travail? Quel rôle pour les syndicats avec la baisse de l'emploi salarié? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Retour sur la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée hier, Reporters sans frontières émet un constat alarmant sur la situation au Sahel et déplore que cette région soit en train de devenir une zone de non-information. Par ailleurs, 30 médias, associations de journalistes et organisations de défense de la liberté d'expression ont lancé un appel aux autorités en place au Mali et au Burkina Faso, les exhortant à protéger les journalistes qui font face à des menaces grandissantes dans ces deux pays. Eric Manira Kidza s'est entretenu avec Sadibou Marong, responsable du bureau de RSF pour l'Afrique subsaharienne.
Le Sahel est devenu une zone de non-information parce que c'est une partie de la zone Afrique qui est en proie à des groupes armés terroristes. Ces groupes armés terroristes souvent attaquent des populations civiles et font beaucoup de forfaits. Mais les armées et les services de sécurité, en essayant de contre-attaquer ces groupes armés, commettent également beaucoup de violations des droits humains. Elles sont arrivées souvent jusqu'à tuer directement des jeunes enfants, des filles, des vieilles personnes. Tout cela, elles ne veulent pas, les autorités militaires, que les médias indépendants puissent couvrir cela, ce qui est inacceptable et ce qui n'est pas possible. Et donc, sur cette base-là, si vous vous entêtez, ils vont vous suspendre, ils vont suspendre votre média pour que personne ne l'écoute. C'est ce qu'ils ont fait à RFI, à France 24. Ils vont expulser vos journalistes, c'est ce qu'ils ont fait à Anne Fèvre et à Sophie Douce. Ils ont également expulsé d'autres journalistes auparavant, comme au Mali, un confrère de Jeune Afrique. Au-delà de cela, ici, ils veulent contrôler l'information en mettant en place un peu des groupuscules de soutien qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. À chaque fois que vous, un journaliste, essaie de faire un travail indépendant et crédible, ces gens-là essaient de l'attaquer dans les réseaux sociaux. Et si bien que, par exemple, au Mali, il y a eu le cas du journaliste Konaté qui était obligé de quitter le pays parce qu'il ne pouvait plus rester. Ils sont allés jusqu'à le taxer d'ennemis de la nation, et ça, c'est problématique. Nous sommes également dans des contextes au Sahel où les zones nord qui sont en proie aux attaques armées sont également des zones qui traditionnellement avaient beaucoup d'informations, avaient beaucoup de radios communautaires. Mais ces radios communautaires-là, beaucoup d'entre eux s'étaient obligés de fermer et étaient obligés aussi de, certains d'entre eux étaient obligés de partir ailleurs parce que les groupes armés leur demandaient de diffuser soit des prêches au lieu de la musique, quoi. Ça aussi, c'est problématique.
Comment pouvez-vous travailler avec les journalistes, les médias et les organisations de la société civile en Afrique subsaharienne pour renforcer la liberté de la presse et protéger les journalistes contre les atteintes à leur sécurité et leur intégrité physique?
Nous partons du fait que, selon lequel la liberté de la presse est une pierre angulaire de la démocratie, ça c'est important, et que il faut une presse libre, une presse de qualité pour que le développement puisse se faire sentir, pour que les populations puissent être davantage informées, formées aussi. Donc nous faisons de la formation et nous parlons avec tout le monde, nous parlons avec la société civile africaine, c'est important, nous parlons avec nos réseaux de partenaires dans les pays comme en RDC, comme au Burkina ou bien au Mali, ou bien ailleurs en Somalie, et nous développons également des stratégies pour parler avec les autorités de ces pays-là. Nous ne fermons pas généralement nos portes, quoi.
Sadibou Marong, responsable du bureau de RSF pour l'Afrique subsaharienne. Par ailleurs, le classement 2022 de Reporters sans frontières place le Sénégal parmi les pays où la liberté de presse est en net recul. Ce classement met en exergue l'emprisonnement de certains journalistes et les difficiles conditions de travail d'autres sur le terrain. Cependant, les associations des professionnels des médias émettent quelques réserves. Notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
Un grand bond en arrière, telle est la situation du Sénégal en matière de liberté de la presse, d'après Reporters sans frontières. Classé 104e, le Sénégal a perdu 31 places. Un recul qui se justifie d'une part, d'après Bamba Kassé, secrétaire général du SENPIX, le syndicat des journalistes sénégalais.
Donc nous sommes un pays où la liberté de la presse est garantie. Maintenant, dans la pratique, il arrive très souvent qu'il y ait des faits ou actes qui sont aux antipodes de cette liberté-là, et c'est ce qui nous vaut souvent d'avoir donc des chutes dans les classements et autres, quoi.
Ces faits aux antipodes de la liberté de presse sont dénoncés par Migi Maram Ndiaye, président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal.
Il y a des confrères qui sont arrêtés ces derniers mois. Pape Ndiaye, un confrère qui était un ancien président également de la Convention, se trouve depuis 2 mois dans les prisons. Pape Alenia également a duré presque 3 mois dans les prisons sénégalaises. Donc sur ce plan, nous pouvons dire qu'il y a une menace. Il y a également les reporters qui sont souvent victimes de violences sur le terrain lors des événements qui sont organisés.
Migi Maram Ndiaye attire également l'attention sur les conditions des journalistes un critère souvent oublié dans l'évaluation de la liberté de presse.
Nous avons mené une étude, mais les premiers résultats sont inquiétants parce que la plupart des reporters, disons 17% des reporters, ne reçoivent pas un salaire à la fin du mois. Et ceux qui reçoivent également un salaire sont sous-payés. Une situation qui est difficile et une réponse doit être apportée par rapport à ça parce que on ne peut pas parler de liberté d'expression, de liberté de presse sans pour autant également lutter contre la précarité.
Bamba Kassé, secrétaire général du syndicat des journalistes sénégalais SENPIX, s'interroge également sur les critères de ce classement.
C'est que je ne peux pas comprendre quand même que des pays qui sont aujourd'hui dirigés par des juntes militaires puissent être mieux placés que le Sénégal. Alors que c'est des pays qui n'ont même pas de régime de système démocratique actuellement. Donc là aussi, ça pose un autre problème. Et le dernier point d'étonnement, c'est que le SENPIX, qui habituellement était... destinataire donc du document pour noter le Sénégal. Ça fait 2 ans qu'on ne reçoit plus ce document-là, donc on n'a pas participé au vote.
Pour les syndicats et associations de presse, la liberté d'expression est globalement bien portante au Sénégal, même s'il faut reconnaître des abus qui la violent de plus en plus. Seydina Aba Gueye pour VOA Afrique, Dakar.
Enfin, au Cameroun, la désinformation via les réseaux sociaux connaît un boom. Les experts expliquent que les acteurs de cette désinformation sont en majorité établis dans la diaspora camerounaise. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, journalistes, associations et pouvoirs publics montent au créneau pour contrer le phénomène de la désinformation. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Les éléments précurseurs de la montée de la désinformation au Cameroun ont été identifiés dans un récent rapport coordonné par cet expert en data journalisme.
En 2018, avec l'élection présidentielle, on avait comme une pléthore de désinformation accompagnée de discours de haine, notamment sur ce qui se disait sur le camp gouvernant, que sur ce qui se disait sur le camp de l'opposition, la crise anglophone par exemple, avec ces personnes établies à la diaspora qui font fuiter des fausses informations pour parfois faire régner la peur sur ceux qui sont dans ces zones ou en encore le cas de Boko Haram sur le nombre de morts, le nombre de soldats tués.
À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, quelques anciens journalistes formés dans cette école d'État ont expliqué les mobiles des fake news aux jeunes journalistes encore en formation.
Quand les gens font des fake news, ils savent très bien que ce n'est pas de l'information, mais parce qu'ils utilisent ça à des fins stratégiques, politiques et tout, et donc ça passe et ça a tendance, mais malheureusement, quand la bonne information n'est pas disponible, le fake news prend la place.
Cette blogueuse a pris part, il y a quelques jours, à un voyage de presse à Cleveland, organisé en faveur des journalistes camerounais par l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Il a été question de partage d'expériences sur la lutte contre la désinformation.
Il est ressorti que la principale arme d'abord pour combattre la désinformation, c'est l'information, c'est la vérification des faits. On a également vu les canaux par lesquels circule la désinformation et ce sont les réseaux sociaux. Combattre la désinformation, c'est également aller sur le terrain des réseaux sociaux et apporter la bonne information aux populations.
Les jeunes sont l'une des cibles des fake news. Le gouvernement a entrepris de les sensibiliser par divers canaux.
Je me souviens déjà avoir reçu un message du Minpost et de Cameroun, le nom ne me souvient pas, qui vraiment sensibilisait les jeunes sur le fait de recevoir de fausses informations qu'il ne faut d'ailleurs pas écouter et qu'il faut vraiment rejeter sous peine d'être sanctionné sévèrement par les lois camerounaises.
Si, ce sont sur les réseaux sociaux comme les Facebook, les WhatsApp, tout ça, des informations arrivent. Mais il y a des fois que nous on partage, mais il y a d'autres là, on ne mène pas de discussion dessus.
Mais la répression en matière de désinformation est encore faible au Cameroun.
Jusqu'à présent, la question de la désinformation est réglée par le code pénal. Pourtant, le code pénal, comme vous le savez, quand il avait été adopté au Cameroun, c'était beaucoup plus avant qu'on connaisse le boom d'Internet.
Les auteurs de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux peuvent écoper d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans et d'une amende comprise entre 5 et 10 millions de francs CFA. Emmanuel Jultap, VOA Afrique,
Yaoundé.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Lionel Runanira Gaïma, à la console Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.